à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse, loisirs et le club du vendredi vous propose des idées pour votre congé de fin de semaine, cuisine, décoration, jardinage, lecture, activités sportives et mille autres choses. Et en cette rentrée, on s'intéresse au petit déjeuner du week-end, bien plus plantureux que celui de la semaine, des croissants au beurre, de la boulangerie, des brioches maison, une baguette tradition, des scones tout chauds, du thé d'Darjeeling fumant, du chocolat chaud velouté, des smoothies fraîchement mixés, des pancakes, des crêpes, mais également un plateau de fromage, un cake au citron, des œufs pochés, des matcha latte, du saumon fumé, bref, un repas libéré des diktats, gourmand à souhait et convivial. Nos invités, Lily Barbery Coulon, Angèle Ferremag et Sandrine Saadi, vont vous donner envie de dresser une jolie table pour le breakfast du week-end. Et puis, le journaliste Éric Libio vous conseillera un livre de poche et un polar qui procure un grand plaisir de lecture. Et c'est le retour des chroniqueurs du vendredi. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Plus chic que jamais avec cette chemise blanche qui met en relief ce teint Rubicon.
C'est ça, ça prolonge le bronzage.
On avait dit qu'on le dirait Rubicon, ça
Quel
c'est
Quel est
fait.
Le menu de votre chronique philo?
Bah, puisqu'on parle petit déjeuner, pendant le petit déjeuner on prend les tartines et donc une question essentielle, existentielle. Pourquoi croit-on que les tartines tombent toujours du mauvais côté?
Ça promet. Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali, bonjour tout le monde.
Resplendissante et qui nous propose en début d'émission une nouvelle chronique qui m'excite déjà, l'ami du vendredi. L'ami du vendredi, c'est un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié.
Oui, et qui va aussi sans doute nous faciliter la vie, nous la rendre plus douce si on le suit à la fois dans ses pensées, ses pérégrinations, quel que soit le support sur lequel il vit, les séries, les films, les livres. J'espère que vous allez tomber en amitié des mêmes personnages que moi.
Bonjour Maya Mazorette.
Salut Ali.
Qui ne supporte pas que je la vous vois pendant l'émission.
On se tutoie toujours cette année.
Bien sûr, et qui a le bon goût d'être née le même jour que moi. Pas la même année, mais le même jour. Et c'est bien sûr le retour de la chronique sexe qui m'excite déjà.
Exactement. Bah, tu y étais déjà. Le petit déjeuner plantureux, tu nous as vendu du rêve. Je vais essayer de faire aussi bien que toi tout à l'heure en parlant de dévorer son partenaire.
Vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Tiens, dites-nous à quoi ressemble votre petit déjeuner idéal du week-end, ce que vous aimez préparer avec amour pour votre moitié ou pour votre famille ou bien pour vous tout seul. Vous pouvez nous contacter au 01 45 24 7000. Laissez-nous un message ou une note vocale sur l'appli France Inter, sans oublier la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Hello les amis. Bonjour Éric Libio.
Bonjour Ali.
Chroniqueur poche et polar dans le mensuel Lire magazine littéraire. Bonjour Angèle Ferremag.
Bonjour Ali.
On vous retrouvera tout au long de la saison en alternance avec notre ami Grégory Cohen pour des recettes saines et gourmandes. Vous êtes la chef de la guinguette d'Angèle à Paris et vous venez de publier Bon, simple et sain chez Marabout. Alors j'ai appliqué à la lettre tous les conseils de Thibaut de Saint-Maurice cet été qui nous recommandait de ne vraiment rien faire sans culpabiliser et ce fut un plaisir sans nom. Et vous de la table, votre été, ce fut un été actif ou en mode feignasse Guillemette Odissino?
faut cocher une case. Feignasse, hein. Mais alors feignasse à un point, mais incroyable. Regardez le ciel, regardez l'eau, regardez les arbres, regardez les feuilles. C'est tout. Mais vraiment, c'est tout. Hein. J'ai un petit peu bouquiné.
Et oui, en tout cas, moi, pour ma part, la nature et la fiction ont été essentielles pour recharger les batteries. Et on a beaucoup échangé cet été à ce sujet-là, d'ailleurs.
Oui, et on s'est en fait aperçu que tous les deux, on avait vraiment mis la pédale douce sur tout ce qui était info, tout ce qui était aussi Twitter, tout ce qui était tous les machins comme ça. On s'est un peu coupé du monde. Ça voulait pas dire qu'on n'était pas au courant des choses essentielles, hélas. Mais en tous les cas, il y avait un retrait, je pense, bénéfique, quasiment vital pour se retrouver et se couper un peu de la violence et des chaos du monde.
Thibaut de Saint-Maurice, vous avez appliqué vos propres conseils?
J'ai essayé, mais la cohérence est toujours une sorte d'idéal hein, qui pointe au loin. Non, un été de promenade, beaucoup de promenades dans un cirque réunionnais avant que ça reconfine, dans des provinces du sud-ouest comme la Dordogne ou l'Aveyron ou les Causses de l'Aubrac, enfin ou les Monts d'Aubrac, et puis même dans l'arrière-pays niçois, donc beaucoup de marches.
Comment ça, même dans l'arrière-pays niçois?
Non, parce qu'il fait chaud.
Maya.
Un été contemplatif pour moi parce que j'ai fait beaucoup d'aquarelles et je trouve ça vraiment intéressant parce que quand on est dans des endroits somptueux, j'étais en Grèce et en Turquie, donc il y a vraiment de quoi voir. soit on prend 10 000 photos par jour qu'on regarde jamais, soit en fait on se pose pendant 2 heures au même endroit pour faire une aquarelle, et déjà bon, on est contente de soi, de ce qu'on ramène à la fin, mais aussi on s'aperçoit que c'était peut-être pas la peine de courir dans tous les sens et qu'on pouvait se poser, regarder, et qu'il y avait suffisamment à voir sans bouger.
Angèle ?
Oui, moi j'étais très très active dans la feignasserie aussi. J'étais dans un endroit où il n'y avait pas internet, donc c'était un grand bonheur en fait, même si ça, c'est toujours un petit peu douloureux d'être arraché à ça de force. En fait, c'est très agréable de se remettre à lire aussi, tout ça, à
Eric.
Regarder.
Et ça a été travail et marche, écriture et randonnée. Voilà, pas en même temps, hein, les deux, parce que c'est compliqué de transporter son ordinateur.
Ah oh là là, il faut qu'il se vante, quoi. Qu'il dise que lui, il a travaillé, qu'il a été créatif.
Voilà.
Alors, pour, bien commencer ce grand nom vous fasse loisir, Eric Libio, vous avez choisi 2 livres.
Oui.
Et on commence avec un livre de poche publié chez L'Abeille Plomb. Un livre signé d'un homme qu'on aime beaucoup dans cette émission, l'immense raconteur d'histoire Jean-Claude Carrière. Et ça s'appelle Contes philosophiques du monde entier.
Oui, c'est le 2e volume. Hein. On sait Jean-Claude Carrière, amoureux des histoires, des fictions, des cultures diverses, des contes et légendes. Vous avez d'ailleurs rediffusé l'émission que vous aviez faite, Ali, avec lui cet été. Alors, dans cet ouvrage sont recueillis. Alors, c'est une espèce de, je dirais fourre-tout, mais pas au mauvais sens du terme. C'est-à-dire, on peut picorer énormément de choses. Hein. Ce sont des histoires un peu légendaires ou des histoires très quotidiennes ou drôles ou pleines de sagesse. Et ce qui est intéressant avec Carrière, c'est que avec Jean-Claude Carrière, c'est que justement, il fait pas de différence entre les unes et les autres. Ça peut être des histoires extrêmement contemporaines, très très modernes d'aujourd'hui, ou au contraire des légendes d'antan. Alors le plus simple, c'est que j'en ai sélectionné 3. Je
crois. Allez-y.
Alors il y a des longues, il y a des courtes. On peut les lire un peu quand on veut. On le met dans la poche et puis dans le métro ou ailleurs.
Dans les toilettes.
Ou dans les toilettes, voilà. Mais il faudrait un jour faire une émission sur les livres de toilettes, quoi. C'est formidable. C'est vrai que on dit pas assez parfois que les livres se lisent. Alors souvent on lit dans les toilettes et que c'est un moment formidable. Il y a des livres qui sont spécialement faits pour les toilettes. Là encore, bonsoir. C'est vous qui m'avez mis sur chemin, Valérie. Hein. Moi je voulais pas en parler. Alors première histoire, c'est l'histoire d'un fermier américain très prospère qui vient en France rendre visite à un lointain cousin paysan, lui aussi, mais beaucoup plus modeste. « Moi, dit l'Américain, quand je quitte ma ferme en voiture le matin, le soir, je ne suis pas encore sorti de mon ranch. Je vois, répond le cousin, moi aussi, j'ai une voiture comme ça autrefois. » Je trouve que c'est une histoire pleine de chalettes. Deuxième histoire, un sculpteur brésilien qui n'a aucune formation artistique choisit des morceaux de bois et en extrait des animaux. Certains des animaux sont connus de lui, d'autres non. Un jour où il sculpte une girafe, sans aucun modèle, ni aucune image de cet animal qu'il n'a jamais vu, quelqu'un lui demande comment il procède. « C'est très simple, répond-il, je prends un morceau de bois, je commence à travailler et tout ce qui n'est pas de la girafe, je le jette. » Qui est aussi plein de sagesse. Et troisième histoire, un disciple demande à son maître, question des plus banales, ce qu'est la vérité. Le maître fit apporter une bassine d'eau et commanda au disciple d'y plonger la tête. Après quoi, le maître appuya de toutes ses forces sur la tête du disciple. Des bulles d'air montaient à la surface. Lorsque les bulles se firent rares, le maître cessa d'appuyer avec ses mains et le disciple, presque étouffé, put retirer sa tête de l'eau. Le maître lui dit alors, « Lorsque tu auras désiré la vérité avec la même force que tu as désiré de l'air, alors tu sauras ce qu'elle est. » Ça, c'est pour Thibaut, hein.
Thibaut de Saint-Maurice, sur la sagesse des contes.
C'est pas mal, hein.
Sur la sagesse des contes.
Oui, alors d'abord.
La sagesse philosophique des contes.
Rien à ajouter, évidemment, aucune prétention. Et deux, ce qui est super, c'est le lien dans le conte entre la simplicité de l'intrigue, presque sa dimension élémentaire, et donc souvent d'ailleurs accessible, évidemment, aux enfants, et la puissance de la leçon que ça peut donner. En fait, notre raison, notre capacité à raisonner, à réfléchir, à se poser des questions, elle a besoin d'être un peu récompensée, d'être un peu attirée. C'est un peu comme le sucre, parfois. Et de ce point de vue-là, la fiction, le conte, peut jouer ce rôle-là. Et je suis tranquille pour le dire, parce que c'est Socrate, hein, notre maître à tous, qui lui-même avait recours au mythe. En fait, le mythe avec des oiseaux qui volent, des chevaux qui volent, etc. Eh bien, en fait, ça vient mettre un peu d'huile ou de sucre dans les rouages de notre intelligence. Et en plus, ça permet d'utiliser les armes de la fiction comme voilà, le rebondissement, la péripétie, la chute, et donc de nous surprendre et donc de nous donner envie.
Guillemette.
Ben moi, je vais juste rester sur le sculpteur qui jette tout ce qui n'est pas girafe. Moi, ce que j'adore là-dedans, c'est qu'en fait, la philosophie est aussi humour. C'est-à-dire, en fait, le regard sur la vie, souvent le regard le plus juste, peut être un regard à la fois absurde et totalement réjouissant par son humour même. Donc ça, moi, je pense que je vais garder. Chaque fois qu'on va me poser une question un peu compliquée, je vais dire, ah, moi, je jette tout ce qui n'est pas girafe.
Oui, c'est vrai que Jean-Claude Carrère, dans son introduction, il dit effectivement que l'humour est une des grandes parties de ses contes et qu'il ne faut jamais l'oublier. Ce qui est sérieux n'est pas forcément intelligent, et ce qui est drôle n'est pas forcément futile. Comme dit Guillemette, l'humour permet de décaler un peu les choses, de voir autrement, évidemment de rire, ce qui n'est jamais désagréable, mais d'un coup de dire, tiens, il y a quelque chose qui s'est passé, qu'est-ce que c'est? Et ça permet justement de renverser parfois pas mal de situations.
Conte philosophique du monde entier de Jean-Claude Carrière, c'est disponible en poche chez l'Abeille Plomb. Et pour compléter, vous pouvez également lire au cabinet d'Henri Miller. Je vous le mets de côté, mon cher. Merci, Eric. Et c'est également disponible en poche. Un deuxième choix, c'est un polar gourmand, j'espère que je prononce bien son nom, de Kuo Li Chang. Ça s'appelle « Le sniper, son wok et son fusil ». Et c'est publié dans la série noire de Gallimard, et c'est traduit du mandarin Taïwan par Alexis Brossolet. Le sniper, son wok et son fusil.
Oui, alors à ma connaissance, c'est le premier polar taïwanais paru à la série noire, qui d'habitude fait plutôt dans le polar français, américain ou parfois un peu nordique. C'est même le premier polar taïwanais que je lis. J'en ai lu des japonais, mais des taïwanais jamais. Alors j'ai pensé à vous, Ali, parce qu'en dehors d'être un formidable roman, il donne différentes recettes de riz sauté au wok. Ah. Alors, je sais pas si on peut le manger au petit déjeuner, mais en tout cas on peut se le préparer.
Si, dit Angèle.
Ah, mais justement.
Oui, ça peut. On peut manger
tout
du riz sauté.
Fait,
bah,
c'est
voilà,
mieux.
Très bien. Voilà. Et les personnages, effectivement, n'arrêtent pas de manger. On connaît les polars de Camilleri, par exemple, pour tout ce qui est recettes italiennes, ou de Montalban pour les recettes espagnoles. Mais là, alors évidemment, il y a pas que de la. Des fois, ça flingue un peu. Hein. Il y a pas que des wok au riz quand même. Il y a deux héros. L'un qui s'appelle Eili, hein, pas Ali, enfin, ça pourrait, il s'appelle Eili. Il tient un petit restaurant à Manarola, en Italie, qui est un vrai petit village. Alors ça paye pas beaucoup, donc il est surtout tueur à gages, parce qu'il faut bien quand même arranger ses fins de mois. Après plusieurs années, il a été tireur d'élite à Taïwan et il a immigré en Italie. Le gars est plutôt d'ailleurs sympathique et plutôt très très fort. D'ailleurs, au début du roman, ça commence, il tue un type net, sans bavure, impeccable. Et puis après, cette affaire vite réglée, il devient vite une proie lui-même. Et là, ça commence un petit peu à sentir le roussi pour lui, ou le brûler pour lui, si je puis dire. L'autre personnage, c'est un flic taïwanais qui s'appelle Wu, le superintendant Wu, qui va prendre sa retraite dans une semaine et qui doit enquêter sur la mort de deux militaires. Alors, Wu, c'est un peu c'est en Corée, mais je sais pas, enfin, Guillemette connaît évidemment, mais Wu ressemble au flic de Memory or Murders de Bong Joon-ho, le type qui avance un peu à son allure, qu'on prend un peu pour un type bon intelligent, mais pas tant que ça, qui digresse un peu, qui va voir à côté, qui va voir...
Oui, qui a l'air un peu de s'en foutre, alors qu'en voilà. Fait, il n'arrête pas de phosphorer dans sa petite tête. Voilà,
un peu comme Columbo.
Quelque chose, oui, de ça.
Oui, mais une espèce de plus pépère, un peu plus comme ça, dont on ne sait pas trop s'il va vraiment réussir. En Columbo, on sait qu'il va réussir, mais lui, on ne sait pas trop. Et effectivement, il va réussir. Évidemment, les deux histoires sont mêlées. Lui, l'enquête sur le meurtre de militaire. Alors, ce qu'il y a de formidable, pour reprendre une métaphore culinaire, c'est le mélange des genres et des ingrédients. C'est à la fois thriller, enquête, course-poursuite. On apprend beaucoup sur l'art et la manière d'être un sniper. Ça peut servir, on sait
jamais. Ça peut servir.
Évidemment, sur les recettes de wok qui sont vraiment données, le riz sauté. Et c'est surtout un face-à-face entre ces deux personnages qui est absolument formidable. Alors, faut laisser un petit peu mitonner parce que le roman ne sort que jeudi prochain. Mais vraiment, vraiment, c'est un polar assez réjouissant et formidable à lire en week-end.
Le sniper, son wok et son fusil du Taïwanais Kuo Li Chang. Et c'est publié à la série noire de Gallimard. Et vous retrouverez évidemment les références bibliographiques sur le site et l'appli France Inter. 10h20, il est l'heure de retrouver la nouvelle chronique de Guillemette Odissino, l'ami du vendredi.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Et Guillemette Odissino nous conseille de devenir amis avec des personnages de fiction.
Oui, chère Ali, et chère auditrice et chère auditeur. Parce que, bien sûr, le week-end, c'est un temps béni pour l'amitié en chair et en os. Mais il l'est aussi pour se faire de nouveaux amis de fiction. Ces êtres qui, une fois que vous avez eu la chance de les rencontrer, deviennent disponibles à jamais. Ils n'ont pas un autre apéro prévu alors que vous rêviez de les retrouver. Ils n'annuleront jamais le dîner de samedi parce que leur fils est malade ou que leur belle-mère vient de débarquer. Ils répondent toujours présents. Ils sont là, fidèles, inchangés, à toute heure du jour et de la nuit, dans un film, un livre, une série, prêts à vous donner un petit coup de pouce pour réattaquer la semaine. Pour cette première chronique de rentrée, je tenais à vous présenter une grande amie, une vieille amie. Ni une héroïne, ni une anti-héroïne, juste une femme. Mrs. Dalloway, créée par Virginia Woolf dans le roman qui porte son nom, publié en 1925, et qui révolutionna la littérature britannique et mondiale en racontant ce qui se niche, ce qui se meut, de simple et de vertigineux, dans les pensées d'une femme. Alors laissez-moi vous présenter Clarissa. Clarissa, elle vient d'avoir 52 ans. Évidemment, elle les avait déjà quand j'ai sympathisé avec elle il y a longtemps. Mais nous sommes devenus particulièrement proches aujourd'hui que nous sommes des copines du même âge. Et je peux être certaine qu'elle ne me laissera pas tomber quand elle sera devenue plus jeune que moi. Les cheveux de Clarissa ont blanchi prématurément. Elle n'est ni particulièrement belle, ni particulièrement brillante intellectuellement. Elle le dit elle-même. Elle est vraiment humble, tout de même. Alors qu'elle pense tout de même avec les mots de Virginia Woolf. Clarissa sait que j'ai du mal avec les gens qui se la racontent. Les copines qui se la pètent, ça m'agace. Et jamais elle ne me fait sentir qu'elle ressent chaque chose bien plus intelligemment que moi. D'ailleurs, c'est fou comme elle est présente au monde. On ne voit qu'elle quand elle entre dans une pièce. Alors, le roman raconte une journée de Clarissa, de cette femme du monde, mariée à un député conservateur à la Chambre des communes, et qui s'apprête à donner une réception. Le livre ne raconte que ça. 12 heures d'une vie. Alors, c'est court, vous allez me dire, mais cela dépend de la vibration des heures. Clarissa transforme chacune de ses sensations en aventure. Elle habite le temps par son amour de la vie et sa conscience anxieuse que toute beauté est périssable. Alors, je ne l'ai jamais entendu dire « carpe diem », hein ? Ben, c'est inutile puisqu'elle l'incarne. Alors, que fait mon amie ? Elle marche dans Londres. Elle marche. C'est un vrai guide du routard. Elle marche pour s'oublier en ressentant la vie autour d'elle, en ressentant les arbres, les hirondelles, les taxis, le bruit de chaque chose. Et ce jour-là, elle est sortie de chez elle pour acheter des fleurs en vue du dîner qu'elle organise. Et attention, je sais à quel point c'est important pour elle.
Mrs. Dalloway dit qu'elle s'occuperait elle-même d'acheter les fleurs. Mrs. Dalloway dit qu'elle s'occuperait elle-même d'acheter les fleurs. Mrs. Dalloway dit qu'elle se chargerait elle-même d'acheter les fleurs.
Mais c'est Starlaway qui dit qu'elle se chargerait elle-même d'acheter les fleurs.
Dans la voix de Clarissa, que l'on peut retrouver sous les traits contemporains de Meryl Streep, dans le magnifique film The Hours, réalisé par Stephen Daldry en 2002, d'après le roman de Michael Cunningham, l'art de faire des bouquets devient une philosophie de l'existence, qu'il faut agencer, comme une rose vibre à côté d'un lys ou d'une branche de lilas. Alors je vous vois venir. Non, ma bienfaisante amie n'est pas futile. C'est une femme d'intérieur, de la vie. C'est une femme du monde, oui. Mais quelle belle expression quand on y pense, une femme du monde. Une femme qui, par un bouquet, un dîner, un petit déjeuner plus coloré ou réconfortant que d'habitude, ou un élégant masque social, tente de protéger son monde et le nôtre de la violence des souvenirs et de l'angoisse du quotidien. Il lui semblait toujours qu'il était très, très dangereux de vivre, même un seul jour. Quand Clarissa m'a confié sa crainte, la première fois, bien sûr, j'ai deviné toute sa mélancolie. Mais c'était le plus beau conseil que puisse me donner une amie. Puisque la vie est dangereuse, alors autant la parcourir. Les yeux et les oreilles grandes ouvertes. Avec de la lucidité, mais en se dirigeant résolument vers des magasins de fleurs.
Mrs. Dalloway de Virginia Woolf est disponible en poche, en folio et chez GF. Et je sens que nous allons être très nombreux à nous précipiter dessus. Vous pouvez réécouter, podcaster L'Ami du Vendredi de Guillemette Odissino sur l'appli France Inter. Bravo pour cette première nouvelle chronique, ma chère Guillemette. Tout au long de la semaine, Grand Bien Vous Fasse a été préparé par Alexia Rivière, Camille Poux-Gelaguier avec l'aide de Victorien Thomas. La réalisation a été signée Claire Destacan avec à la technique Pierre-Yves de Rolin et Rémi Sistiaga. Programmation musicale, Valentine Chedebois. Toute l'équipe embrasse d'ailleurs très fort Muriel Pérez. Et on écoute Prince, Raspberry Beret. Interprété Raspberry Beret.
J'ai fait un rêve merveilleux.
Grand bien vous fasse.
J'ai avec une femme sublime aux yeux marrons m'apporté mon petit déjeuner au lit.
Ali Rébéi.
J'aime me beurrer la biscotte.
Sur France Inter.
10h30, pourquoi vous me regardez comme ça, Thibaut de Saint-Maurice? Grand bien vous fasse loisir, on s'intéresse au petit déjeuner du week-end, nettement plus gourmand que celui de la semaine en règle générale.
Est-ce qu'on aura de la confiture et des crêpes pour déjeuner demain matin, grand-mère Griselda?
Bien sûr, mes petits cœurs, vous aurez toutes les choses qui peuvent vous faire envie. Oh, vous aurez des tas de crêpes et de gâteaux, et trois sortes de confiteries. Et Gretel, je vais te faire un merveilleux petit déjeuner. Et tu veux, Gretel?
Oh oui, Griselda, oh merci, et dormez bien.
Tu es une bonne pâte. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit.
Extrait de d'Ansel et Gretel.
Oui, bonjour. Ça a mal fini, Ali, quand même, cette histoire de petit-déj, là.
Bonjour, Lily Barbery Coulon. Vous avez été journaliste à Vogue et à M, le magazine du Monde. Et vous avez créé votre blog lilybarbery.com et vous avez publié chez Marabout Pimp My Breakfast, traduction bon français pour ma mère. Et pour les puristes de la langue française qui aiment écrire à la médiatrice de Radio France.
On va dire que c'est un jeu de mots, mais qui veut dire améliore ton petit déjeuner. Voilà.
C'est moins vendeur, peut-être.
C'est moins vendeur. Ça, c'était inspiré d'une émission de télévision qui s'appelait Pimp My Ride et qui consistait à prendre une vieille carcasse de voiture et à la transformer en une voiture flambant neuve, quoi.
Bonjour Sandra Saadi.
Oui, bonjour Ali, bonjour tout le monde.
Vous animez le blog Fraises et Basilic et vous publiez également chez Marabout Breakfast Gourmand. Alors, question sémantique, pourquoi avoir choisi Breakfast et pas Petit Déjeuner dans les titres de vos livres, Sandrine Saadi?
Parce que je trouvais que ça englobait des choses un peu plus larges que Petit Déjeuner.
C'est-à-dire
sur ce terme-là. Pour moi, il pouvait y avoir du sucré, du salé. On pouvait aller jusqu'à l'idée de brunch aussi. Qu'on retrouvait moins dans le petit déjeuner en français.
Quelle est la différence entre le petit déjeuner du week-end et le brunch? Il n'y en a pas vraiment?
Le week-end, on peut prendre plus le temps. Donc peut-être la différence entre le petit déjeuner de la semaine et du week-end, c'est qu'on a un peu plus de temps à consacrer à ce repas-là. Qu'on peut le prendre aussi peut-être un peu plus en famille.
Le petit déjeuner du week-end qui ressemble davantage à un brunch?
Oui, il peut ressembler davantage à un brunch, donc il peut se décaler un peu au niveau des horaires, le prendre un peu plus tard. Et effectivement, il peut y avoir un peu plus de choses sur la table parce qu'on a un peu plus le temps de cuisiner en amont.
Angèle Ferrobag.
Et le brunch, c'est un mélange entre breakfast et lunch.
Le déjeuner.
Le petit déjeuner et le déjeuner. Donc c'est censé être sur la durée, ça commence plus tard et tout ça. Et le breakfast, c'est déjeuner. Casser le jeûne, the fast, c'est le fait de jeûner. Donc c'est quand même, ça se prend en général un peu plus tôt, c'est pas tout à fait la même utilité. Quand on prend un breakfast, on prend un déjeuner après.
Guillemette Odissino.
Non, j'étais juste en train de me dire que la différence entre le petit déjeuner de la semaine et le petit déjeuner week-end, c'est que le week-end, il y a un petit déjeuner.
Oui, c'est vrai.
Tant vous êtes mignon, mais moi dans la semaine, j'ai à peine le temps d'avaler un café, donc là en fait, voilà, c'est vraiment le week-end, c'est le moment où on peut enfin se dire qu'on va vraiment prendre un petit déj sympa.
Alors Lily Barbery Coulon, le petit déjeuner chez vous, c'est une vieille obsession, et c'est encore et toujours votre repas préféré.
Oui, après, je dois avouer que si je suis en cohérence et en honnêteté totale avec vous, je suis venue ce matin, j'ai donné un cours de yoga entre 7h30 et 9h, ensuite j'ai foncé sur un taxi moto, et mon petit déjeuner c'était une banane à peine mûre devant Radio France, donc je voudrais déculpabiliser tous ceux qui n'aiment pas particulièrement se préparer quoi que ce soit le matin.
En tout cas, le week-end, c'est votre repas préféré?
Oui, le week-end ou d'autres jours, en tout cas, j'ai la chance de pouvoir choisir la manière dont je consacre mon temps parce que je travaille de chez moi et un peu à mon rythme. Donc il y a évidemment une notion de temps parce que ça prend plus de temps de faire une jolie table et que ce soit un peu plus apprêté. Mais moi, je recycle beaucoup en fait mon frigo et je mange aussi des restes de la veille parce que je mange pas uniquement sucré le matin. Donc ça peut paraître étrange à beaucoup,
sushi le matin, pizza le matin, bien sûr.
Non, mais c'est vrai. Voilà, la pizza au petit déjeuner, je l'ai pas mise dans mon livre, j'aurais dû.
Alors Lily Barbery Coulon, depuis l'enfance, vous aimez la profusion de la table du petit déjeuner qui ressemblait bien souvent à un buffet de goûter d'anniversaire. À quoi ressemblaient ces petits déjeuners quand vous étiez enfant?
Quand j'étais petite, en fait, il y avait une règle à la maison, c'est que le dimanche soir, ma mère qui n'avait pas envie de cuisiner nous disait « vous avez le droit de faire un repas comme le petit déjeuner ». Je crois que c'était une tradition, en fait, dans les années 70 et 80, qui avait été repris par beaucoup de parents, c'est-à-dire on fait rien, on s'occupe de rien. Et moi, j'adorais cette idée que le petit déjeuner, qui était finalement, il y avait une liberté à table où on regardait pas les quantités qui étaient mangées, où finalement les enfants étaient assez libres de se servir eux-mêmes. Et c'est ça qui me plaisait. Après, moi j'ai grandi dans une famille qui n'était pas spécialement obsédée par le bio et qui était plutôt autour des céréales industrielles. J'ai pas grandi avec les recettes que je partage dans mon livre.
Votre mère aimait l'abondance des têtes de gondole et les promotions des grandes surfaces.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui avait probablement manqué quand elle était enfant. Donc moi je comprends très bien ça aussi. Et c'était pas, elle allait pas réfléchir
en fait. Enfin, c'était aussi une autre époque de toute manière. Mais en tout cas, moi, ce qui, je me souviens très bien des petits déjeuners qui me plaisaient, c'était aussi de pouvoir rester, voilà, à se réveiller, à lire le paquet de céréales encore 50 fois, et cette espèce de moment où on est entre le sommeil et le réveil et où tous les contours sont un peu flous. Moi, j'aimais bien ça.
Et vous, Sandrine Saadi, à quoi ressemblaient vos petits déjeuners d'enfance ?
Alors moi, aussi surprenant que ça puisse paraître pour quelqu'un qui a décidé d'écrire un livre sur le sujet, je ne déjeune jamais. Comme ça, c'est dit, c'est bien écrit dans le livre aussi, dans la partie à propos, donc pas de mensonge. Par contre, je trouve qu'effectivement, autour du petit déjeuner, il y a vraiment des choses hyper intéressantes à faire et qu'on peut sortir du trop classique lait, céréales, industriel trop sucré, et qu'il y a vraiment matière à s'amuser et à les piocher, à la limite, dans des recettes qui vont dans d'autres moments de la journée, plutôt du côté du dessert ou du goûter, par exemple. Donc voilà, mais je ne déjeunais pas petite, ni maintenant.
Guillemette Odissino.
Moi, ce que j'aime dans la notion du petit déjeuner, c'est vraiment la notion. En fait, c'est le repas, je pense, à part le goûter, mais ça, on a rarement le temps de goûter tout de même. C'est le repas qui est le plus du domaine de l'enfance. D'abord parce qu'évidemment, il y a plus de sucre, enfin, normalement, dans les plats. Mais c'est aussi, je suis d'accord, moi aussi, je suis de cette génération où maman me disait, bon, allez, ce soir, c'est petit déj. Mais en plus, elle était alsacienne. Et donc, ça voulait dire que le dîner, c'était comme un dîner de la Saint-Nicolas. C'est-à-dire ce jour dans la semaine en Alsace où le dîner, c'est du chocolat chaud avec un max de brioches, des brioches en forme de bonhomme, etc. Bon. Et donc, pour moi, en fait, le petit déjeuner, ça garde, finalement, quelle que soit l'heure à laquelle on prend, même le soir, c'est une saveur absolument d'enfance.
Angèle ?
Ben moi, j'étais aussi du genre à pas prendre de petit-déj jusqu'à ce que j'ai des enfants. Et en fait, j'ai besoin de mettre des rituels, des moments pour les rassurer, pour les voir et passer du temps avec eux. Donc maintenant, je prends des gros petits-déj. Je me sens mieux.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, parce que en tout cas, moi j'ai des enfants moyens, ils sont plus petits, ils sont pas encore grands. Et en fait, le petit-déj dans la semaine, c'est surtout le repas où on se retrouve. Parce que à déjeuner, il y a les cantines, le travail, tout ça. Le soir, il y a parfois un des deux parents qui est pas là, etc. Ou il y a une activité qui termine tard ou quoi. Donc en fait, le repas, où, quand on a des horaires qui collent à peu près, mais c'est le repas où on est à peu près tous là. Puis il y a un truc qui m'a toujours amusé dans le petit-déjeuner et qui correspond un peu à cette idée de liberté que vous avez dit, c'est que petit-déjeuner, c'est un repas où c'est autorisé de pas tous manger la même chose. C'est-à-dire que on accepte l'individualisation de ce qu'on va manger. Donc ça commence par thé, café, chocolat, lait chaud, chocolat froid, lait froid. Il y a différentes sortes de jus. Il y en a qui prennent du beurre, pas de beurre. Il y en a c'est des confitures, oui, d'autres c'est du miel, etc. Oui. Et donc on accepte ça, alors que souvent, en tout cas dans la cuisine familiale un peu traditionnelle, bon, on a préparé un plat, on met le plat au milieu de la table et puis tout le monde aime. Et puis s'il y en a un qui aime pas, c'est un peu compliqué, il faut faire un truc alternatif. Alors le petit déjeuner, on peut individualiser comme ça, alors même qu'on se retrouve tous autour de la table. J'aime bien ce mélange des deux.
Oui, pour moi, c'est cette notion de jugement qui disparaît et qui fait tellement de bien parce que, en fait, on est vraiment à un moment où on regarde beaucoup les assiettes des uns et des autres, tout est scruté. Ah, tu manges pas ça? Ah ouais, c'est hyper bizarre que tu prennes ça. Et finalement, au petit déjeuner, les choses les plus bizarres sont tolérées. Une personne dans ma famille qui mange du fromage avec du chocolat par-dessus, c'est vraiment, bon, tout le monde est toujours épouvanté. Mais c'est vrai que finalement, tout passe. Et ça me plaît beaucoup, moi, cette idée-là.
Et puis, il y a la notion de quantité. Pardon, mais c'est quoi la vieille expression qu'au petit déjeuner, on peut manger comme un roi ou comme un ogre, et puis que c'est dans les autres pas qu'on se retrouve comme des mendiants. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup dans le petit déjeuner, pardon, c'est qu'on peut manger ce qu'on veut, sous prétexte qu'après, on va tout éliminer dans la journée.
Et oui, Sandrine Saadi, ce qui est génial avec le petit déjeuner, c'est qu'il autorise presque tout. Hein, et puis aussi la variation des plaisirs. Hein.
Oui, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de recettes autour du petit déjeuner. On peut aller du côté des porridge, du côté des piles de pancakes ou de crêpes. On peut privilégier des petits déjeuners un peu emportés avec des energy balls ou des choses comme ça. Le week-end, on peut prendre le temps de préparer des brioches. Donc voilà, il y a vraiment, on peut vraiment sortir de choses très classiques et voilà, y aller en fonction de nos goûts, de nos envies du moment et du temps qu'on a à consacrer à la préparation du petit déjeuner.
Alors Lily Barbory-Coulon, vous portez une attention toute particulière aux arts de la table hein, pour les petits déjeuners avec une grande passion pour la céramique chez vous.
Oui, pour la céramique, mais en fait aussi pour les fleurs, pour revenir à la chronique que j'ai beaucoup appréciée juste avant. Non, je pense qu'en fait, ce qui se passe sur la table, on se nourrit aussi avec les yeux. Et que moi, ce qui m'intéressait derrière cette idée de petit déjeuner, c'était est-ce qu'on peut manger avec plus de conscience? Est-ce qu'on peut être un tout petit peu plus présent à table? Et je pense que lorsque c'est beau, lorsque c'est joli, même si c'est au lieu de croquer dans une banane, et ben de peut-être la découper en rondelles, de mélanger ça avec un kiwi, juste visuellement, on est déjà un peu plus nourri. Et si en plus on sort ces jolies assiettes, pourquoi est-ce qu'on les réserverait juste pour dîner entre amis? On peut aussi faire différemment.
Angèle ?
Moi, ça me parle énormément, ça, parce que c'est vrai que se nourrir, c'est bien plus que mettre des aliments qui vont nourrir nos cellules. C'est évidemment le partage, c'est se retrouver, mais aussi la beauté et l'attention qu'on met dans les choses. Comme Lily, j'aime beaucoup faire des belles tables, même si je suis toute seule. Surtout si je suis toute seule, avec des belles choses, prendre le temps de cuisiner, de préparer, de manger. On fait pas de faire les courses, enfin. C'est pas la même chose, on digère pas pareil. C'est une vraie nourriture.
Une recette pour ce petit déjeuner plantureux du week-end, Angèle Ferremag?
Oh, il y en a mille. Alors là, on a parlé des porridge. Là, je vous ai apporté un petit porridge de quinoa.
Alors, ça va plaire.
Moi, j'ai déjà goûté, hein. Je suis désolée, j'ai commencé avant tout le monde.
Ça va plaire à Ricky Bio, ça.
Alors, au début, ça faisait peur à tout le monde, mais en fait, l'idée, c'est que le matin, c'est le moment où sécrète de la dopamine. Dopamine, c'est bon. Le neurotransmetteur qui nous donne la patate, qui nous permet de nous lancer pour la journée. Et donc, pour être synthétisé, elle a besoin d'acides aminés. C'est aussi le moment où on a le taux le plus élevé de lipase, qui est l'enzyme qui va aider à couper les gras.
C'est ça, donc, je vous disais aussi.
Voilà. Donc, en gros, pour faire simple, le petit déjeuner, on devrait, contrairement à ce qu'on pense, idéalement manger salé et gras. Et donc là, c'est un porridge de quinoa salé. Avec, c'est un petit peu comme un riz au lait. On met du quinoa cuit qu'on va mélanger. Là, je l'ai mélangé avec du lait d'amande. Un petit peu d'épices pour éviter de trop saler, donner du goût. Donc là, il y a de la cannelle, de la cardamome. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et dessus, j'ai mis un œuf. Donc, ou vous mettez juste un jaune d'œuf cru. Vous gardez le blanc d'œuf pour le goûter. C'est le moment où vous pourrez manger du sucré. Vous le mixez avec 200 grammes de chocolat pour 4 blancs d'œufs et ça vous fait exprès sans rajouter de sucre une mousse au chocolat délicieuse. Mais donc pour le porridge, vous rajoutez le jaune d'œuf. Vous pouvez le faire confire dans de la sauce soja ou du sel la veille. Et c'est tout.
Alors, c'est la première fois que j'aime le quinoa.
J'adore votre porridge de quinoa, mais je n'abandonnerai jamais les viennoiseries le week-end.
Mais le week-end, bien sûr. Le plaisir le nourrit aussi énormément.
Lily Barberie Coulon, qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs pour ce week-end?
Moi, je dois dire que j'ai quand même, dans mon livre, moi, j'aime bien les choses qui vont vite à préparer le matin, même si le temps long, c'est formidable de préparer une brioche, mais c'est quand même l'un des trucs les plus difficiles à faire. Moi, il y a une recette toute bête qui est d'écraser une banane, mettre un petit peu de flocons d'avoine et un œuf battu, et puis on le met dans une poêle et ça fait un pancake qui ne contient pas de sucre ajouté, il y a juste le sucre de la banane. C'est très moelleux, c'est délicieux. Et si on met un peu de beurre salé par-dessus, ça rehausse le goût, c'est délicieux. Voilà.
Alors moi, j'ai retenu dans votre livre les scones aux cranberries.
Ouais, c'est facile
à faire, ça.
Oui, ça c'est facile. Et puis si on n'a pas de cranberries, j'ai voulu faire ma maline avec les cranberries, mais on peut mettre des raisins secs. Hein.
Tiens,
j'adore la franchise de cette femme.
Sandrine Saadi, des conseils pour métamorphoser son petit déjeuner du week-end?
Alors moi je rejoindrai Angèle sur le porridge. Alors moi j'ai une recette dans le livre que j'aime beaucoup, c'est une recette de porridge de sarrasin au chocolat. On ajoute à ça un petit peu de piment parce que piment chocolat c'est quelque chose qui marche très bien et avec le goût un peu toasté du sarrasin c'est un vrai délice. La seule chose qu'il faut prévoir c'est qu'il faut faire tremper le sarrasin la veille, enfin toute la nuit. Donc voilà, vous faites tremper le sarrasin ce soir et demain matin vous avez un super petit déjeuner.
Thibaut de Saint-Maurice, vous, votre petit... Oui, il a la bouche...
Il est en train de manger de tartine.
Je passe mon tour.
Votre petit déjeuner idéal
Alors,
il y a
comme
sur la table.
Voilà, pardon. Enfin, jusqu'à il y a pas très longtemps, c'était beaucoup le truc classique, pain, beurre, confiture, et de plus en plus les fruits, en fait, au petit-déj. C'est formidable. Voilà, donc vraiment beaucoup plus les fruits depuis quelque temps.
Alors, je cite quelques recettes issues du livre de Lily Barberie Coulon. On peut faire des œufs pochés à la nette, des cakes à la banane, salade de fruits rouge au basilic à la rose. Ça m'a l'air pas trop mal. Une faisselle à la rhubarbe aux cranberries.
Et on peut même oser une soupe miso le matin. on peut. Ouais, absolument. En fait, le truc, c'est que je crois vraiment de s'autoriser à écouter son envie et sa faim. Parce qu'il y aura peut-être des matins où on n'aura pas du tout faim, il n'y a pas de règles. C'est juste d'arriver jusqu'à la satiété et la satisfaction. Donc, les deux fonctionnent ensemble. Voilà, mais moi, quand c'est joli, on va manger un petit peu moins forcément naturellement parce que quand c'est vraiment très beau, et si on doit choisir une très bonne viennoiserie et qu'on est allé la choisir, qu'elle est croustillante, qu'elle est délicieuse, et qu'on est assis à table pour en profiter, on va la manger et on en mangera un petit peu moins que si on se dépêche rapidement de la manger debout. C'est juste du bon sens, quoi.
D'autres conseils, Sandrine Saadi ?
Vous pouvez aussi opter sur du salé, effectivement, Joël en a parlé aussi, et il y a plein de recettes un peu sympas autour du salé, voilà, avec des avocats d'autos, des choses un petit peu à la mode, des œufs cocottes. On peut sortir du traditionnel faux plat et aller vers des choses un petit peu différentes.
Alors là, c'est la minute un peu poujadiste, et tout ça coûte très cher, hein, de prendre du temps, de faire des petits déjeuners comme ça, Angèle.
Mais il y a aussi un truc qui est très très sain, c'est quand on choisit un bon pain au levain complet avec un bon beurre cru, c'est délicieux, voilà. Si on rajoute pas de confiture, de jus, voilà. Machin, c'est délicieux, c'est très bon pour la santé, c'est très sain.
Merci beaucoup, hein, Sandrine Saadi. Breakfast gourmand, c'est chez Marabout. Et Pimp My Breakfast de Lily Barbery-Collomb, c'est chez Marabout également. Allez, il est temps de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello, la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Alors, après des chroniques philosophiques consacrées aux gaufres, à l'épluchage des légumes, vous nous proposez donc une réflexion sur les tartines beurrées. Pourquoi croit-on que ces tartines, quand elles tombent, tombent toujours du mauvais côté ?
Côté beurre.
Et quoi ?
Avec rien.
Avec rien. Côté pas beurre.
Ah !
C'est peut-être le poids, alors.
Il faut fixer plusieurs paramètres pour voir. Il y a plein de choses, la taille de la tartine autour de la table, la quantité de beurre, quantité, si on met de la confiture, il y a plein de choses. On va déterminer une fois pour toutes si l'univers est avec nous ou contre nous.
Très donc de l'émission de France 5, on n'est pas des cobayes, en 2014, autour donc de cette grande question existentielle, pourquoi les tartines tombent-elles toujours du mauvais côté ? Et existentielle, vous l'avez compris, parce que quand on fait effectivement tomber sa tartine et qu'elle tombe du côté du beurre, ou du côté de la confiture, ou du côté du miel, ou du côté des rillettes, hein, pour ceux qui aiment, eh bien on a effectivement l'impression, hein, comme on l'a entendu, que l'univers est contre nous et que décidément cette journée commence bien mal. On croit à ce moment que ce simple fait est un signe, le signe d'une intention mauvaise de l'univers à notre encontre. Comme quand on croit que l'on tombe toujours sur la caisse ou sur la file de péage qui avance le moins vite. Alors que, en réalité, pour la tartine comme pour le péage, tout s'explique. C'est une histoire de probabilité et de hauteur de table. Je ne suis pas dans le détail des explications, mais les expériences ont été faites. Et dans les faits, si nos tartines tombent souvent du mauvais côté, elles ne tombent pas toujours du mauvais côté, c'est donc difficile d'y voir le signe d'une intention ou d'une autre.
Alors Thibaut, pourquoi continue-t-on de croire que ces tartines tombent toujours du mauvais côté et que l'univers nous en veut ?
Eh bien Ali, parce qu'il faut relire Pascal et que Pascal nous le fait remarquer dans ses pensées, parce que la raison ne met pas le prix aux choses. Ce qui veut dire en clair que nous avons beau savoir, cela ne nous empêche pas de continuer à croire. Parce que la raison ne fait pas le poids contre l'imagination. Vous avez beau expliquer rationnellement à un enfant qui a peur du noir et des monstres dans le placard, par exemple, qu'il est très improbable que les monstres existent et qu'il est très improbable qu'il choisisse sa chambre et ce soir-là spécialement pour venir l'effrayer, eh bien cela ne fera pas disparaître sa peur. Alors ce qui est vrai pour ce qui vaut pour les monstres, hein, ou pour les tartines beurrées, ça vaut aussi pour les vaccins, par exemple. Alors que croit-on au juste, hein, quand on croit que les tartines tombent toujours du mauvais côté, eh bien on croit donc que ça se produit toujours parce que quelque chose ou quelqu'un nous en veut. Et donc on entretient une croyance strictement superstitieuse d'une intention cachée à l'œuvre dans le monde qui transformerait la survenue des événements en un destin tout tracé. Alors que quand on accepte l'idée que cela n'arrive que souvent ou parfois, en fonction de paramètres comme la taille de la tartine, la hauteur de la table, la présence de beurre, de confiture ou de tout autre supplément susceptible de modifier le poids de la tartine, eh bien alors on accepte l'idée que les événements surgissent en fonction de raison avec laquelle ma raison peut interagir. C'est donc la différence entre ceux pour qui l'existence se déploie dans un monde fermé et magique et ceux pour qui l'existence se déploie dans un monde ouvert et rationnel. Ouvert, alors parce que ouvert à l'action, à l'intervention humaine. Ouvert et finalement compatible avec notre liberté qui désormais devient une bonne raison de faire les choses. Voilà, cette tartine beurrée qui tombe de la table pendant le petit-déj, eh ben, c'est un bon sujet de réflexion en ce début d'année, si en plus vous voulez activer le réveil de vos enfants. Un bon sujet pour réfléchir à la manière dont nous apprenons à connaître, entre croire et savoir, et un bon sujet pour réfléchir à la manière dont nous pouvons agir, entre destin et liberté. Et donc ça donne aussi au moins deux bons cours hein, pour tous ceux qui reprennent en ce moment les chemins des écoles, des collèges et des lycées.
Et vous pouvez réécouter ou podcaster la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice sur l'appli et sur le site de France Inter. Éric Thibiot ?
Oui, je voudrais juste savoir, une fois qu'elle est tombée, est-ce qu'on peut la manger quand même ou du coup, il faut la jeter ? Si elle tombe selon le côté sur lequel elle tombe ou...
Voilà, ça dépend de vos goûts, Éric.
Ça dépend surtout si on a fait le ménage la veille ou pas, pardon. En fait, c'est une considération très domestique.
Maya ?
Et moi, je pense qu'il faut manger la tartine tout de suite, comme ça, elle n'a pas le temps de tomber.
Elle vous a écouté avec beaucoup d'attention, Thibaut de Saint-Maurice, Patricia Martin. Bonjour, Patricia Martin.
Bonjour Ali Réveillé, bonjour à tous. Est-ce que je peux poser une question
au sujet de la tartine ? Bien sûr.
Qu'est-ce qu'on aurait pu dire des tartines de Colette, l'écrivain Colette qui beurrait ses tartines dessus, dessous ?
Ah oui,
c'est un bon ou un mauvais côté ?
Mais il y a tout de mauvais côté, c'est formidable.
Elle avait bien raison. Patricia Martin, l'une des voix mythiques de France Inter au Masque et la Plume, le dimanche soir et ce soir à 20h, vous nous proposez une émission consacrée à la philosophie. Je me souviens il y a quelques années de Philophile, le dimanche à midi. Racontez-nous ce que l'on entendra dans leur philo. Ça s'appelle comme ça, leur philo, ma chère Patricia Martin.
Leur philo, après l'heure bleue de Laure Adler du lundi au jeudi, ce sera leur philo le vendredi soir. Alors, ça va être un petit peu comme dans l'esprit de ce que vous venez de faire, c'est-à-dire c'est une philo accessible, mais qui en même temps montre qu'on peut avoir à tout instant, je sais pas, une hauteur de vue, une réflexion qui soit féconde, une réflexion incarnée, bien sûr, puisque ça sera évidemment une rencontre avec quelqu'un, avec un homme ou une femme, avec une philosophe ou un philosophe.
Premier invité ce soir ?
Je sais pas. Non, c'est Étienne Klein qui est merveilleux, qui a accepté d'essuyer les plâtres, qui sera en quelque sorte le parrain de cette émission. J'espère que ça nous portera bonheur. Il est philosophe des sciences. Et puis alors, on va parler du temps, parce que je pense qu'à la fois le confinement... qui nous a prouvé quand même que notre perception du temps pouvait être soumise à bien des changements, et les vacances aussi, où le temps paradoxalement passe plus vite, ça montre bien que le temps est à la fois une donnée physique, mais qu'il est aussi une appréhension humaine, et que peut-être d'ailleurs il n'existe pas, on ne sait pas en fait.
Eh ben, on va écouter leur philo ce soir à 20h.
Merci.
Merci Patricia Martin. Dans un instant, la chronique sexe de Maya Mazorette. Et en attendant, on écoute Polo et Pan, les jolies choses.
Quand je te jetais à l'eau, un saut, une pelle et deux cils.
dans Les Jolies Choses.
Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obséder par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je ne peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
La chronique sexe de Maya Mazoret, tous les vendredis à 11h05. Et je crains le pire, Maya.
Bah pourtant, qu'est-ce que tu risques avec un thème aussi innocent que le petit déjeuner? Que je parle de beurrer sa tartine? Thibault l'a déjà fait. Que je parle des miettes de croissant qui grattent pendant l'amour? Ah, j'aurais pu. Mais désolée, j'ai opté pour le café crème matinal, mais sans le café. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que tout le monde comprend bien le quoi je parle?
Oui.
Bon appétit tout le monde.
C'est la rentrée.
Ce matin, grand bien vous fasse, va parler d'ingestion de protéines au lit.
Merci beaucoup pour la périphrase, Maya Mazoret.
L'ingestion de protéines, une pratique relativement courante puisque selon des chiffres de l'IFOP qui paraissent aujourd'hui, un tiers des femmes ont déjà agrémenté leur breakfast ou leur dîner d'un peu de protéines mâles, donc animales. C'est moins que dans tous les autres pays européens analysés. Preuve peut-être et contre toute attente que la crème française est de moins bonne qualité qu'en Espagne ou en Allemagne. Alors, Lily Barbéry-Coulon avait une question. Comment cuisiner les protéines masculines? Eh bien, chère Lily, il existe des bouquins de cuisine qui répondent à ton interrogation. En anglais, The Natural Harvest, littéralement la récolte naturelle, en est à sa troisième réédition depuis 2008 et propose 62 pages de recettes dédiées. Un succès qui, on est tous d'accord, appelé un tome 2 pour faire des cocktails comme le White Russian ou la Pina Colada. Ce bouquin-là, il est paru en 2013, il s'appelle Semenology. Une autre question maintenant, posée par Thibaut de Saint-Maurice. Quid des nutriments? Car c'est un argument qu'on entend à toutes les sauces. La protéine masculine serait bonne pour la peau et la santé, pleine de vitamines. Bref, le complément indispensable de nos gestes beauté matinaux. Est-ce que vous savez combien il y a de calories dans les protéines masculines?
Non.
Entre 5 et 25 calories par dose, le liquide étant essentiellement composé d'eau, de plasma et de mucus. On y trouve aussi de très faibles quantités de calcium, magnésium, glucose, fructose.
C'est bien, c'est régime.
Exactement. Mais je flingue quand même les espoirs des diététiciens du dimanche. Si la chose était aussi délicieuse et nourrissante que les hommes le prétendent, eh bien ils en boiraient et on en achèterait par bidon entier au supermarché et ce serait remboursé par la sécu. Or, est-ce que vous savez ce que les hommes boivent le matin? Du café. Et ils ont bien raison, car le café améliore la mobilité des spermatozoïdes. Je résume. Au breakfast, si vous voulez que la crème soit bonne, il faut un bon café.
Maya, et côté solide, on mange quoi?
Alors, on peut toujours agrémenter le corps de nos partenaires avec les classiques, fraises, chocolat, chantilly, sushi, cassoulet, toulousain. Mais pour le désir, en fait, c'est bien simple. N'importe quoi fera l'affaire. Les femmes, notamment, ont d'autant plus faim d'amour qu'elles n'ont plus faim de nourriture. Alors, si vous voulez des câlins, vous savez quoi faire demain matin. Vous levez à l'eau, passez à la boulangerie et commencez à beurrer les tartines. Il y aura peut-être des miettes dans le lit, mais si ça peut faire croustiller les rapports conjugaux, et ben pourquoi pas.
Et du coup, le porridge de quinoa d'Angèle, un drôle de goût là d'un coup. Et on peut évidemment podcaster la chronique sexe de Maya Mazoret sur l'appli et sur le site de France Inter. Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse. Demain, à 9h30, c'est le retour de l'émission Bel et Bien sur France 2, que j'ai le plaisir de présenter avec Agathe Le Caron, en compagnie du psychiatre Christophe André. L'émission sera consacrée à la mémoire. Lundi, dans Grand Bien Vous Fasse, nous attendons toutes les questions que vous n'osez pas poser à votre médecin. Vous pouvez d'ores et déjà laisser un message et une note vocale sur l'appli France Inter.